L'affaire Malgouir, meurtre dans le jardin préféré des Français, épisode 4.
Après 4 années d'instruction, c'est un procès très attendu qui s'ouvre cet après-midi devant la cour d'assises de Montpellier. Très attendu surtout par 2 protagonistes principaux, à savoir Françoise et Daniel Malgouir, propriétaires du domaine Le Jardin Saint-Adrien à proximité de Servian. Le couple va donc se retrouver durant 3 semaines face à face, elle côté partie civile, lui dans le box des accusés.
C'est comme ça qu'on juge en France. Il y a les faits, il y a les dires des accusés, et quand tout ça ne suffit pas, il y a cette intime conviction des juges et des jurés. Je ne vais pas vous raconter les 2 procès de Daniel Malgouir, Richard Liop et Richard Bruno. Jean-Pierre Bruno n'a, lui, pas été jugé pour des raisons de santé. Non, je ne vais pas revenir point par point sur la teneur des débats, car je vous ai raconté l'essentiel dans les épisodes précédents. La relation tendue entre les époux, l'amitié de Richard Liop, éleveur de chevaux et organisateur du cambriolage, l'amour infini et dévastateur peut-être des Malgouir et des autres pour l'argent. Je ne vais pas vous raconter qu'il a beaucoup été question du chien. Pourquoi a-t-il aboyé au début et puis plus du tout après? Pourquoi n'a-t-il pas défendu ses maîtres? Où était-il d'ailleurs pendant l'agression? Avait-il été enfermé ou avait-il fui? Non, je ne vais pas vous raconter le détail des procès, je vais directement vous parler des verdicts. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Il y a une inconnue dans cette affaire. Qu'il ait organisé le cambriolage ou non, pour quelle raison Daniel Malgouir aurait-il tué David Viers ? Après avoir épluché l'affaire, il y a 2 théories qui s'affrontent. D'abord, la première. Daniel, il n'est pas toujours très fin. Il dit des choses comme « Moi, j'ai déjà tué un homme. » Souvenez-vous, dans l'épisode 1. Et puis, plusieurs témoins l'attestent. Il a toujours dit que si on tentait un jour de le cambrioler et qu'il était dans la maison, il tuerait les voleurs. Oui, il a des armes. Et ce jardin, c'était son rêve. Il le protégera coûte que coûte. Si on adhère à cette théorie, Daniel n'a rien organisé du tout, mais il a fait ce qu'il a toujours dit qu'il ferait, tuer son cambrioleur. La seconde théorie maintenant. Daniel Malgouir était bien le commanditaire, mais une fois à l'étage avec David Viers, tout ne s'est pas passé comme prévu. Cette hypothèse est résumée ainsi au procès en appel par la veuve du cambrioleur, Sandra Viers.
Ça pue à des kilomètres cette histoire. Je pense que mon mari est monté avec vous. Moi, je sais que mon mari est un impatient. Lui, il est venu pour de l'argent. Et comme elle ne veut pas donner la combinaison du coffre, pour moi, il lui demande qu'il lui donne ce qu'il devait, 50 000 euros, sinon je dis tout à ta femme. Et que là, Malgouir a pété les plombs. Je pense que mon mari est mort pour une phrase de trop. Il n'a pas tiré à 2 ou 3 mètres, il a tiré à ça de la poitrine de mon mari.
En décembre 2021, les juges du premier procès ont considéré que Daniel Malgouir était bien l'instigateur du cambriolage et qu'il était au courant de tout. Pour le meurtre de David Viers et pour le vol en bande organisée, il a pris 18 ans de réclusion criminelle. Richard Liop, 8 ans de prison et Richard Bruno, 7 ans. Mais un an plus tard, la cour d'assises de l'Aude aura une toute autre vision de l'affaire. Le 12 décembre 2022, le propriétaire du jardin Saint-Adrien est condamné pour le meurtre, mais acquitté pour l'association de malfaiteurs. La peine n'est pas si différente, 15 ans de réclusion. Mais cette fois-ci, il n'est plus considéré comme le bourreau de Françoise. C'est l'ami Richard Liop qui l'est. Daniel Malgouir conclura ainsi cette histoire particulière. Jésus a eu son Judas, Malgouir a eu son Liop. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Exceptionnellement pour cette saison, notre invitée n'est pas en studio avec moi. Elle habite dans le sud de la France. Bonjour Emmanuelle Salasque.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déménagé, mais vous avez habité un temps du côté du jardin des Malgouir. Vous allez nous en parler. Alors Emmanuel, vous êtes écrivaine, vous êtes romancière, vous êtes actuellement en plein dans l'écriture de votre prochain livre qui traitera justement du lieu où toute cette histoire s'est déroulée, cette carrière transformée, on peut le dire, par les Malgouir en jardin. Vous avez suivi les audiences des deux procès aux assises. Emmanuel, comment expliquez-vous que les verdicts soient si différents d'un procès à l'autre ?
Oh, il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, comme il n'y a aucune preuve matérielle d'une éventuelle complicité de la part de Daniel Malgouir, les jurés du deuxième procès l'ont acquitté parce que le doute bénéficie toujours à l'accusé. Et je pense que les jurés du premier procès l'ont condamné par rapport à un faisceau de présomption, mais il n'y avait pas vraiment de preuves. Donc, quand on n'a pas de preuves, on est toujours sur le fil, quand on n'a pas de preuves matérielles. Et normalement, ça doit bénéficier à l'accusé, ce doute-là. Et il y a autre chose aussi, c'est que dans le deuxième procès, il n'y avait plus que M. Malgouir qui était accusé.
Ah oui.
Et les deux autres accusés du premier procès ont joué sur le fait qu'ils soient coupables pour eux, sans doute, un peu atténuer leur peine. Donc, l'accusation n'était pas tout à fait la même.
Alors, vous connaissez personnellement la famille Malgouir. Vous avez visité Daniel Malgouir en prison plusieurs fois depuis son incarcération. Oui. Quelle est sa situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours détenu, d'ailleurs ?
Oui, il est toujours détenu, oui.
Alors, quelle est sa situation ? Comment vit-il cette incarcération ?
Ah ben lui, il la vit très très mal, puisqu'il crie toujours à son innocence quant à la complicité. Et même s'il a été acquitté, il trouve qu'il a pris trop d'années de prison par rapport à ce qu'il estime être de la légitime défense. Mais il s'adapte, comme toujours, et il tient bon, et voilà. Et il veut, je crois qu'il veut, une fois sorti, prouver... avec certitude, son innocence, je crois.
Oui, bien sûr. Pourquoi vous avez décidé d'aller le voir en prison ? En quoi c'était important pour vous ?
Alors moi, en fait, comme vous l'avez expliqué, j'écris un livre, non pas sur l'affaire, même si l'affaire, bien sûr, fera partie du livre, mais sur le lieu. C'est le lieu qui m'intéresse, au moins, cette carrière transformée, et puis le village tout entier. Comme vous l'avez dit, j'y ai habité de mes 10 ans à mes 18 ans, à peu près. Et j'habitais pas n'importe où puisque j'habitais dans la gendarmerie.
Ah oui.
J'étais à leur gendarme.
D'accord.
Donc, c'est un lieu qui m'intéresse à plusieurs titres et j'étudie ce lieu-là et cet endroit-là et cette région-là, en fait, par rapport à la transformation du lieu et à ce que moi j'y ai vécu. Donc, je fais un parallèle entre un peu mon histoire personnelle et l'histoire de cette famille.
Et du coup, vous l'avez vu, ce jardin, se transformer ?
Oui, oui. Et notamment, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était lors d'un événement familial que nous avons fêté dans ce jardin. Et c'était justement au moment de la tension extrême qu'il y avait entre Daniel et sa femme Françoise. Mais nous, évidemment, nous ne le savions pas. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il représente, ce jardin, dans la région ?
Ah, c'est un lieu qui est très apprécié de la plupart des gens, qui est très, comment vous dire, c'est un peu une fierté, voilà, régionale. Moi, comme je l'ai toujours précisé, notamment à Daniel Malgouir, c'est quelque chose pas vraiment dans ce que moi j'aime voir, puisque j'apprécie plutôt des lieux plus sauvages. Mais c'est impressionnant, la transformation de ce lieu.
Qu'ils ont réussi à faire, oui.
Ouais, on est un peu abasourdi, étourdi de cette transformation quand on y est.
D'accord.
Espanté, on dit chez nous qu'on est espanté.
Espanté. Est-ce que Françoise, elle habite toujours sur ce jardin ?
Oui.
D'accord. Et elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui, cette femme ?
Alors, moi, Françoise, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'avais vue, c'était au deuxième procès. Mais elle est évidemment... abattus. En fait, ils sont tous abattus dans cette famille. Ils sont tous blessés, déchirés, puisqu'ils souffrent tous de cette situation, puisque ce homejacking a divisé la famille en deux. Et c'est très, très douloureux de ne plus parler à ses propres enfants, que ce soit d'un côté comme de l'autre.
Est-ce que vous diriez que Françoise est la victime dans cette histoire ? principale.
La victime principale, non, je dirais que c'est David Viers, la victime principale, puisqu'il a perdu la vie. Et ensuite, toute la famille de cet homme. Je ne dis pas qu'à la place de Daniel Malguir, j'aurais agi autrement. Je ne dis pas ça. On ne sait pas ce qu'on peut faire quand on est braqué. Mm-hmm. Parce que même si au procès, on n'a pas réussi à démontrer qu'ils avaient une arme, c'est certain qu'ils avaient une arme. Et on ne sait pas comment on peut réagir à ça. Quand on se fait braquer, on redevient un petit enfant de 8 ans. Donc, je ne dis pas. Mais la situation, en tout cas, ce qui s'est passé, la première victime, même s'il a lui-même indirectement provoqué, c'est David Viers. Ensuite, c'est toute la famille de cet homme. Et puis ensuite, c'est bien entendu Françoise. Et ensuite, Daniel n'est pas coupable, c'est lui aussi. Et puis, évidemment, leurs enfants qui souffrent de cette situation et toute la famille.
Bien sûr.
Comme dans beaucoup de faits divers, en fait, finalement, tout le monde est victime.
Bien sûr. Avec la détention provisoire et les remises de peine, Richard Liop est sorti de prison presque immédiatement après sa condamnation.
Oui.
Est-ce que vous savez quelles relations est-ce qu'il entretient toujours d'ailleurs les relations avec les Malguir et comment Françoise a vécu une telle trahison de la part de son ami?
Ah non, je ne crois pas qu'il entretienne une quelconque relation avec les Malguir. Et quand je disais que tout le monde est coupable et tout le monde est victime, je ne suis pas sûre que Richard Liop soit victime. Parce que Richard Liop, il a trahi énormément de monde. Et très certainement aussi Daniel Malguir, quoique Daniel Malguir ait fait, de toute façon, à un moment donné, il y a une trahison. Je pense que, par exemple, Françoise, elle a été très, très en colère contre Richard Liop. Très, très en colère.
Sûr.
Mais pas seulement elle.
Dans ce village, cette histoire, qu'est-ce que ça représente?
Ce que j'ai entendu dire, c'est assez partagé. Disons, par exemple, au niveau des soutiens, c'est très partagé. Voire les gens ne savent pas trop où se situer. Par contre, tout le monde a cette réflexion, quel dommage. Et dire qu'ils avaient tellement travaillé, voilà, c'est la chute qui interroge. On se dit tout ça pour ça. C'était bien la peine. Parce que Françoise, comme Daniel, ils se sont donnés à fond pour ce lieu, pour finalement le perdre, parce qu'ils vont le perdre tous les deux, ce lieu. Voilà. Et puis en plus, ça a été le lieu de leur chute.
Alors en parlant de chute, justement, on dit un couple heureux, on les voit hein, dans l'émission de Stéphane Bern en 2013. Ils s'aiment profondément, c'est l'image qu'ils donnent. Et puis finalement, été 2017, ils se haïssent. Est-ce que c'est vraiment la chute de cheval et l'arrivée d'Yolanda au jardin qui explique cette soudaine inimitié?
Elle la ravive, mais l'inimitié est liée depuis longtemps. Et puis ça, de toute façon, c'était très connu de tout le monde. On savait très bien que ce n'était pas un couple heureux. Hein. C'était des partenaires de travail depuis très, très, très longtemps. En tout cas, peut-être qu'ils ne se haïssent pas, puisqu'il faut quand même arriver à travailler ensemble. Mais Françoise est en colère parce qu'il y a une première trahison de la part de Daniel Malguir, puisqu'il la trompe avec sa sœur. Et elle se braque et elle essaie de le quitter, elle n'y arrive pas.
Oui.
En gros, elle décide de se venger. On ne sait pas trop comment ça va se passer et elle-même, sans doute, ne le sait pas, mais elle est très, très en colère. Et puis ensuite, il y a l'accident de cheval et le rapprochement entre Daniel et Yolanda, alors qu'elle, elle est dans le coma défigurée, donc ça ravive tout ça. Mais de toute façon, ce n'était pas un couple heureux.
Mais vous avez raison de le préciser, qu'il a eu une relation avec sa propre sœur, puisque c'est vrai que je ne l'avais pas dit dans le récit. Et en effet, on comprend cette cristallisation, en fait, de cette colère, de cette haine qui va monter dans ce couple. Je reviens un petit peu en arrière.
C'est peut-être ce qui est... qu'elle ne le soutienne plus à partir d'un moment donné.
Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière pour qu'on comprenne une chose importante. En 79, vous avez donc 10 ans et vous vous installez, en fait, avec vos parents à Servian. Votre père, vous l'avez dit, est gendarme et il va enquêter sur un cadavre découvert dans cette carrière. Plus tard, le frère de Françoise, Bernard, dira que c'est ce jardin qui a causé la perte familiale. À votre avis, il est maudit, cet endroit?
Alors... je précise juste quelque chose. Moi, j'arrive en 79, mais mon père, il y est depuis 76. Et c'est en juin 78 qu'il y a eu lieu ce meurtre dans le jardin. Daniel présente ce jardin à Françoise en 79, donc juste moins d'un an après ce meurtre, un viol suivi d'un égorgement. C'est assez sordide.
Terrible.
C'est un berger un peu... qui est très, très, très instable, qui l'a tué. C'est un endroit, justement, je le trouve à la fois maudit et paradisiaque. C'est-à-dire, déjà à ce moment-là, dès les années, fin des années 70, on y va se promener, On s'y cache, on va y ramasser des escargots, des asperges. Ça fait un petit coin un peu sauvage au milieu des vignes. Et puis, il y a quand même ce meurtre. Et à la fin du 19e siècle, il s'y passe aussi déjà quelque chose de sordide que je raconterai dans mon livre. Et c'est aussi un abri pour certaines personnes. C'est aussi un dépôt de décombres, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. On y jette tout et n'importe quoi. Et en même temps, c'est ensuite ce paradis qui font les Malgouirs, mais il y a aussi des mariages qui s'y déroulent, et d'ailleurs dès le 19e siècle, hein, à l'époque c'était des carriers qu'il y avait, et donc c'est des endroits de joie. Et quand il y a eu c'est un anniversaire de mariage que nous on y a fêté l'été 2017, et Françoise m'avait dit, quand on en avait reparlé au moment du procès, elle avait dit... je suis contente parce que c'était un moment de joie, c'était un moment de vie. Mmh. Et il y en a eu plusieurs. Et j'espère que quand peut-être ce jardin va être vendu et que les gens qui le reprendront, ils auront aussi des moments de joie. Et oui, il y a eu des drames. Mmh.
J'ai une toute dernière question. Vous êtes allé voir donc plusieurs fois Daniel en prison.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre intime conviction ? Il a participé ? Il est derrière ?
Je ne peux pas vous dire mon intime conviction, d'abord parce que je n'ai pas fini d'écrire, et puis aussi je vais vous dire que ce n'est pas ce qui me préoccupe. Moi, j'échange avec lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, qui réfléchit énormément sur lui-même, et ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, il était dans l'action, il travaillait. Et là, il est contraint physiquement de rester au même endroit. Alors, il se bouge, hein, il fait de la gym, tout ça, mais il réfléchit beaucoup sur lui-même. Donc, c'est enrichissant. Et notamment, on parle beaucoup du lieu et pas seulement de l'affaire. Et ce qui m'intéresse, c'est toutes les intimités, justement, qu'il y a autour de ce lieu, la sienne, mais aussi celle d'autres personnes. La complicité, je ne sais pas si ça changera grand-chose à ce que je vais raconter, de savoir s'il est complice ou pas, mais de toute façon je ne livrerai pas mon intime conviction, peut-être je la livrerai dans le livre, mais je ne crois pas non plus, je ne sais pas.
Bon, le mystère reste entier, il faudra qu'on lise votre livre.
Oui.
Merci beaucoup Emmanuelle Salasque d'avoir accepté notre invitation, je rappelle que vous êtes écrivaine et romancière, merci.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Tiffaine Pioget. Merci beaucoup, chers auditeurs. On est ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.